gusto po na yun. Yung gusto po na yun. Si elaka o sale na yowe, kasungi sinyo sa pa yata tana ka
na yowe,
kini oyon yo sa po na yo,
niya sa po na
yowe.
Habitant du silence, bonsoir. J'enregistre cette émission dans la soirée là, du jour où Macron a enfin bien voulu nous communiquer le nom de des membres de son gouvernement. 10 jours après, on réfléchissait encore. Ça montre très bien ce que Barouin disait, il y a un peu d'amateurisme dans ce gouvernement. Et il y a aussi beaucoup d'impréparation, un peu comme si, contre toute apparence, Macron était surpris d'être élu, l'entourage avec. Bon, le Premier ministre, déjà, il a fallu attendre 2 jours après la passation de service, je ne sais plus, 1 jour ou 2, ce qui était bizarre quand même. Probablement qu'il y avait des tractations avec M. Juppé. Que va-t-on dire aujourd'hui? Ah bon, moi j'ai attendu hein, que ce gouvernement soit formé pour, pas le commenter, mais pour aller un peu plus loin. Et je reviens à mon 1984 de George Orwell, qui expliquait que toutes les oligarchies, je lis, du passé ont perdu le pouvoir, soit parce qu'elles se sont ossifiées, soit parce que leur énergie a diminué. Ou bien elles deviennent stupides et arrogantes, n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances nouvelles et sont renversées. Ou alors elles deviennent libérales et lâches, font des concessions alors qu'elles devraient employer la force et sont encore renversées. Elles tombent, les oligarchies, donc ou parce qu'elles sont conscientes, c'est-à-dire arrogantes, ossifiées, ou alors parce qu'elles sont inconscientes, parce que leur énergie a diminué entre-temps, et que, voilà, avec l'arrogance, elles n'ont ni vu, ni n'ont pu s'adapter, et se sont écroulées. Là-dessus, où intervient M. Macron, parce qu'il n'était pas là, hein, il faudrait probablement faire l'exégèse de cette élection, du politique, depuis 30-40 ans, mais peut-être qu'elle est déjà faite avec cette élection présidentielle, parce qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle où on disait bien que ces Égyptiens, vous ne les verrez plus, vous vous souvenez? On a dit qu'on ne le verra plus, bon, voilà, ils sont plus là, les Égyptiens, c'était les deux grands partis qui s'étaient installés dans le confort pour se partager le pouvoir, de temps en temps faisant une cohabitation aller-retour, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'elles pouvaient risquer? Elles sortent des grandes écoles, l'école, ce sont nos mêmes élites. Donc voilà, on pensait aller de la gauche à la droite, mais en fait, on restait toujours dans la même structure, dans le même moule énarchique des grandes écoles à la française, qui ont été entre-temps captées et capturées, j'ai envie de le dire, et qui forment un cercle fermé, qui gère l'État, qui détient l'appareil d'État. Et d'ailleurs, Macron, c'est pour cela, on est là dans une configuration qui à la fois paraît nouvelle, mais qui en fait n'en est pas une. Elle est quelque chose de très conformiste finalement, c'est l'anarchie qui est là. Et en même temps, c'est quelque chose de très libéral. Le problème de ce qui est libéral, c'est pas l'économie qui va pas suivre, ça c'est pas le problème, mais c'est que on est libéral comme on est permissif, on est libéral comme on est lâche, c'est le mot lâche, mais pas dans le sens premier, mais c'est dans le sens où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de frontières, c'est nos limites. Et effectivement, Macron, c'est le gars qui est nos limites. D'ailleurs, Valls l'a dit, et nos limites, ça veut dire que toutes les méthodes qui ont lieu dans le libéralisme sauvage et brutal de la finance et de l'économie, telles qu'on les voit évoluer dans le monde depuis la crise de 2008. Alors là, c'est vraiment les chevaux qui sont lancés à la vitesse multipliée. C'est nos limites. Il n'y a pas de loi, on fait des OPA, on fait ce qu'on veut, on braconne ici, on braconne là, on prend ici, on mélange pas, ça va pas, demain on change. Quelque part, on peut même faire le contre-pied. Du coup, on va un peu avoir cet effet de. Là, je fais la prophétie, hein, cet effet de, vous voyez, comme l'abeille, hein, zigzag, zigzag, ça va aller d'un côté, puis de l'autre, on aura cela, mais Macron, il restera, pour lui, ça sera pas un souci. Sauf que c'est embêtant parce que c'est pas vraiment les codes politiques. Jusqu'à présent, c'était pas ça. Il n'y avait pas l'effet de, comment on appelle ça, c'est Maya l'abeille. On avait peut-être un côté comme ça, très paresseux, du train du sénateur, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui vient derrière, qui moi m'a interpellé très fortement, c'est la question de la désacralisation du politique. Et j'ai pris un livre de Mircea, j'arrive pas à prononcer son nom, Mircea Eliade, qui s'appelle Le sacré et le profane. Et je l'ai lu parce que Macron, c'est vraiment le profane qui arrive au pouvoir. Et tout de suite, dans l'introduction, le livre pose la question de la place de l'un par rapport à l'autre. Et on avait cru, n'est-ce pas, que le profane évoluait à la lisière du sacré. Alors lui, il pose le problème autrement et demande dans quelle mesure le profane peut-il devenir en lui-même sacré, dans quelle mesure une existence radicalement sécularisée, sans Dieu ni Dieu, sans Dieu au singulier, ni Dieu au pluriel, est-elle susceptible de constituer le point de départ d'un nouveau type de religion, c'est-à-dire que le profane lui-même qui croit qu'en dépassant, ou plutôt en se moquant de tous les concepts qu'il a jugés morts de Dieu, de tous les symboles, de tous les rituels et des églises chrétiennes, en se moquant de tout cela, il y a quand même toujours chez lui, dans ce monde profane, dans cette existence profane, dans cette affirmation du profane, quelque chose qui revient par une opposition, il appelle ça une coïncidence oppositionnelle, à refonder un nouveau type d'expérience religieuse. Au fond, il essaie de nous dire, l'auteur essaie de nous dire que la disparition des religions n'implique point la disparition de la religiosité dans l'homme. L'homme a besoin, est un être qui a une conscience comme ça, qui le pousse à croire en quelque chose. Donc on arrive à la question de la foi. Le libéralisme, c'est une foi. C'est une foi, c'est une identité. Ce qui transparaît, je vais dire malgré vous, de vous, c'est ça votre identité, c'est ça ce à quoi vous croyez. Et le libéralisme, comme comportement, ça dit que l'homme ne croit pas à un surmoi, mais qu'il croit en lui, lui, son moi. Donc, c'est très freudien, hein? Tout cela, j'essaye de vous faire toucher du doigt, j'espère que je vais y arriver. Et ce profane qui arrive au pouvoir et qui ne se positionne pas comme un être qui a un surmoi, donc qui descend d'une filiation, d'une lignée, c'est quelque chose de très inquiétant, tel que Mircea fait l'analyse. Hein. C'est quelque chose de très inquiétant parce que le profane installe en lui un temps qui est terrifiant. Le temps devient terrifiant parce que une fois qu'il est profané, il devient en quelque sorte précaire, donc tributaire des événements et des circonstances. Or, là où le religieux, le sacré, était, ou plutôt surplombait tout cela, c'était, on appelle ça donc le plan transhumain, suprahumain, c'était parce que la religion, elle règle la question de l'existence, non seulement parce qu'elle règle la question de la crise, mais aussi parce qu'elle apporte la solution à la crise. Et cette solution, ça vient comme ça d'un temps répétitif, d'un temps cyclique, qui est calqué sur la vie du Christ, et bon, des grands prophètes et des grands hommes, des dieux, on va dire, de la mythologie, de la religion. Voilà, l'homme est un être mythique, mythique ou mythologique. Il a besoin de mythologie pour se fonder et se transcender. Donc, on ne peut pas concevoir la grandeur sans se positionner d'une façon ou d'une autre dans je veux dire, dans la trajectoire de la sacralisation. Et ce sacré suppose que vous imitez des autorités avant vous, des grandes personnalités avant vous, des Jaurès, des Blum, des De Gaulle. Et si vous ne vous référez pas à ces personnalités-là et que vous vous construisez vous par rapport à vous-même, par rapport au libéralisme, au schéma de libéraux, donc nos limites qui sont des schémas horizontaux, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du fragile, de l'ordre de la précarité. Et on voit très bien là qu'on attend les élections législatives pour essayer de régler cette question de la précarité, de la suspension du temps, parce que on ne sait pas, c'est un gouvernement précaire, on va l'appeler comme ça, ce gouvernement provisoire. On va pas dire précaire, mais un gouvernement provisoire, il en a tous les attributs d'ailleurs, et on est un peu orphelin de cette sacralisation des hommes. Autant on était énervé parce que les gens sont là depuis 30 ans, 40 ans, et ils semblent pas apporter de solution au problème, mais autant c'était quand même des figures référentes, c'était des figures paternelles et maternelles, c'était des figures, et c'est pour cela qu'on croyait toujours, on croyait toujours, on se disait oui, on leur redonne une chance, on redonne une chance, jusqu'au moment où, bon, voilà, tout casse, tout fout le camp. Mais c'est pas aussi simple que cela. L'homme a besoin de ces éléments-là pour se construire lui-même et pour construire le pays. On construit pas comme ça sur du néant. Voilà. Il n'y a pas de conscience qui relève du néant. Toute conscience est une conscience pleine, est une conscience qui doit être remplie. Alors bon, c'est intéressant ces choses-là sur le sacré et le profane. On parle beaucoup de religion, mais la question qui est quand même posée, qui est intéressante aussi, c'est que si vous n'êtes pas, vous croyez pas en Dieu, vous allez substituer à ce Dieu-là une autre figure et d'autres figures ou d'autres valeurs auxquelles vous allez croire. C'est inévitable, c'est inévitable. Puisque la réflexion est quand même un peu voilà, poussée, je vous invite à lire ce livre hein, de Mircea Eliade, qui fait vraiment une sorte d'histoire des religions, ou plutôt des moments de rupture. Dans notre histoire humaine, et on verra carrément que quand la révolution arrive, par exemple, elle expulse l'Église du centre, parce que c'est un concept très fondamental, ça, de celui qui ne croit, n'a plus de surmoi. Quand vous évacuez le surmoi, c'est vous qui vous placez à la place du surmoi et qui vous placez au centre du monde. Et quand vous évacuez l'Église, vous mettez l'État, on appelait ça la laïcité, mais la laïcité est venue, elle a eu besoin de ces nouveaux dieux, et parmi ces dieux-là, il y a l'ENA. Malheureusement, avec ses travers qui nous restent voilà, en travers la gorge, il faudrait refonder la mythologie. Je ne sais pas comment refondre la mythologie. Jusqu'à présent, on n'a pas su très bien y faire parce qu'on est parti justement dans l'horizontalité alors que la mythologie va vraiment vers la transcendance. Qu'est-ce qu'on fait? Mircea Eliade dit une chose, il dit qu'après la première chute, donc du paradis, la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée. Non, la première chute, on va dire, c'est la chute au niveau de Nietzsche. Voilà, de Nietzsche, quand Nietzsche a dit que Dieu était mort, la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée. On est déchiré parce que d'un côté, on sent très bien qu'on relève du plan divin, ces choses-là, c'est spirituel, c'est immatériel, on ne peut pas les canaliser, mais de l'autre, la réalité du monde nous dit que non, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes nés du chaos, vous voyez un peu, et le monde, c'est un peu le hasard, et nous devons nous y adapter par nécessité. Donc après cette première chute de Dieu est mort, on a une conscience qui est déchirée. Et après la deuxième, au moment où le libéralisme arrive triomphant, après que Karl Marx ait tout dit et que ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de révolution de prolétaires, hein, ça, il ne faut pas rêver, le prolétariat ne peut pas se rebeller, il ne peut pas faire une révolution en tant que telle, il faut qu'elle soit portée par des gens comme Macron. Donc après cela, il y a une deuxième déchirure qui arrive, mais là, ce n'est même plus la déchirure, il dit que avec le libéralisme et le capitalisme, donc la religiosité est tombée plus bas encore dans les tréfonds de l'inconscient, elle a été oubliée. Moi, je vais remplacer le terme oublié en disant, je vais dire qu'elle a été refoulée. Parce que le refoulé, vous savez, c'est ce que vous pensez que vous avez oublié, mais en fait, que vous ne pouvez pas oublier et qui, tôt ou tard, va ressortir et rejaillir quelque part malgré vous. Donc, Macron, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Que voulez-vous qu'on dise en souhaitant président, bonne chance. Je ne sais pas. L'avenir nous dira si il est sur le droit chemin. Je vous laisse sur cette réflexion profane ou sacrée, je ne sais pas comment le dire. Ben, réfléchissez-y parce que je crois que la suite des événements va nous conduire à revenir souvent sur cette histoire du profane et du sacré, ou de la profanation du sacré, ou inversement de la sacralisation du profane. Et ça devrait être intéressant finalement à l'aventure Macron. Et on verra aux législatives. Bon, je ne vais pas m'arrêter là quand même. On va dire deux choses sur la politique. Monsieur Bruno Le Maire qui arrive, c'est un lieutenant de Dominique de Villepin. Il faut suivre, hein, les gens qui se sont ralliés. Macron, sans ces ralliements-là, on verra bien à la fin qui sont les maîtres penseurs, les dieux de Macron. Parce il en a, c'est obligé. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.
Yes, I'm going to go.